Chapitre 31. Les émotions qui suivirent cette terrible tragédie suspendirent les graves réflexions qu'un événement de cette nature devait suggérer au noble cœur de Fabiola. Son premier soin fut d'étancher le sang qui coulait à flots avec le premier objet qui se trouva à sa portée. Pendant qu'elle était ainsi occupée, une nuée d'esclaves courait vers son appartement. Le stupide portier commençait à trouver la visite de Fulvius bien longue. Le lecteur connaît maintenant son véritable nom, quand il le vit s'échapper comme un insensé et portant sur son vêtement des traces de sang. Le serviteur donna immédiatement l'alarme à toute la maison. D'un geste, Fabiola retint ses esclaves à la porte de sa chambre et demanda seulement Euphrosyne et la jeune esclave grecque. Cette dernière, n'étant plus sous l'influence mauvaise d'Aphra, s'était attachée tendrement à Syra, comme nous la nommerons encore, et Gréca écoutait docilement les instructions morales de sa compagne. On envoya de suite un esclave chercher le médecin que Syra avait toujours appelé en cas de maladie. C'était Dionysius qui, comme nous l'avons vu, demeurait dans la maison d'Agnès. Fabiola, dont les yeux ne quittaient pas Syra, vit bientôt avec bonheur que le sang cessait de couler si rapidement, et elle se réjouit plus encore en voyant sa servante ouvrir les yeux et la regarder un moment. Pour toutes les richesses de la terre, la noble patricienne n'aurait pas voulu changer le doux sourire qui accompagnait ce regard. Quelques minutes après, le bon médecin arriva. Il examina soigneusement la plaie et déclara qu'en ce moment, il n'y avait rien de dangereux dans la blessure. Tel qu'il avait été dirigé, le coup devait atteindre Fabiola droit au cœur. Mais sa servante, fidèle et aimante, malgré l'ordre de sa jeune maîtresse, veilla sur elle pendant toute la journée, cherchant l'occasion de seconder les impressions précieuses de la grâce que les événements de la matinée ne pouvaient manquer de faire germer dans cette âme. Elle se tenait dans une chambre voisine lorsqu'elle entendit les accents furieux d'une voix qu'elle connaissait trop bien pour se méprendre. Elle approcha sans bruit et se tint debout derrière le rideau qui fermait la chambre de Fabiola. Cachée dans l'ombre, elle resta à l'endroit même où, quelques mois auparavant, Agnès était venue la consoler. À peine y était-elle cachée que la dernière lutte commença. Pendant que le meurtrier poussait sa maîtresse vers la couche, elle le suivait par derrière. Au moment où il levait le bras, elle se jeta sur Fabiola et, de son corps, fit un rempart au corps de la victime. Le coup l'atteignit. Mais elle l'avait fait dévier par le choc qu'elle avait imprimé au bras de Fulvius. Il tomba sur son col et lui fit une profonde blessure que la clavicule seule empêcha de descendre plus bas. Nous n'avons pas besoin de dire ce que ce sacrifice lui coûta. Ce n'était pas l'appréhension de la douleur ou la crainte de la mort qui pouvait la faire hésiter un instant, mais l'horreur d'imprimer sur le front de son frère la marque de Caïn l'affligeait profondément. Cependant, elle avait offert sa vie pour sa maîtresse. Essayer de lutter avec l'assassin, dont elle connaissait la force et l'agilité, c'était peine inutile. Tenter de donner l'alarme à toute la maison avant que le coup fatal n'eût atteint Fabiola était chose impossible. Un seul parti restait à tenter, se substituer à la victime et être immolé à sa place. Et encore, Syra voulait épargner à son frère la consommation du crime. C'est pour cela qu'elle fit connaître devant Fabiola les liens de parenté qui les unissaient et leur nom véritable. Dans son aveugle fureur, il refusait de la croire. Mais ces mots prononcés dans leur idiome natal « Souviens-toi de mon écharpe que tu as ramassée ici » rappelèrent à la mémoire du meurtrier le souvenir d'un drame de famille si terrible que si la terre avait ouvert en ce moment un abîme devant ses pas, il s'y serait précipité pour ensevelir à jamais ses remords et sa honte. Il était vraiment étrange qu'il n'eût jamais avoué à Eurotas que cette relique de famille était revenue dans ses mains. Il la tenait cachée comme un objet sacré. Quand tout fut préparé pour le départ, il la plia et la mit sur sa poitrine. Mais dans le mouvement qu'il fit pour saisir son poignard oriental, il la laissa tomber et on retrouva sur le sol et l'écharpe et la dague. Après avoir pansé la blessure de Syra et lui avoir administré des cordiaux qui la firent promptement revenir à elle, Dionysius réclama le plus grand calme pour la malade et recommanda de ne lui laisser voir que peu de personnes pour prévenir toute agitation, puis il s'en alla après avoir prescrit un traitement qui devait durer jusqu'à minuit. « Je reviendrai demain de grand matin, dit-il, afin de voir ma malade seule. » Puis il murmura quelques mots à son oreille qui parurent lui faire plus de bien que tous les cordiaux du monde, car sa physionomie s'illumina d'un sourire angélique. Fabiola l'avait fait placer dans son propre lit et, reléguant ses esclaves dans une autre pièce, s'était réservé le privilège de soigner la servante à laquelle, quelques mois auparavant, elle ne croyait devoir aucune gratitude pour les soins qu'elle lui avait prodigués quand elle-même était malade d'une fièvre lente. Elle raconta aux autres esclaves dans quelles circonstances Syra avait reçu cette blessure, en cachant les liens de parenté qui existaient entre son meurtrier et sa libératrice. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu quitter le lit de la malade, bien qu'elle fût elle-même exténuée et atteinte de la fièvre, et quand minuit sonna et qu'elle n'eut plus de potion à lui administrer, elle se jeta sur une couche basse et rapprochée du lit. Quelles étaient les pensées de la jeune fille quand, à la lumière vacillante de la chambre de malade, son esprit et son cœur venaient à s'éveiller à la fois? Ses pensées furent ardentes et simples. Elle vit en un instant la réalité et la vérité de tout ce que la servante lui avait enseigné. Dans leur dernière conversation, Fabiola avait écouté avec bonheur l'exposé de principes des théories qui lui paraissaient bien au-dessus de la pratique ordinaire, théories qui ne pouvaient, selon elle, se résumer en pratique. Lorsque Myriam lui parlait d'une sphère de vertu où l'on n'attendait ni l'éloge ni la récompense des hommes, mais seulement le regard satisfait d'un Dieu invisible, elle admirait la beauté de l'idée qui s'emparait si fortement de son esprit généreux. Mais elle se révolta à la pensée que cette théorie devait, à toute heure, guider ses actions et ses paroles. Cependant, si le coup au-devant duquel l'esclave s'est précipité pour garantir Fabiola était devenu fatal, comme il aurait pu l'être si facilement, où donc aurait-elle reçu sa récompense? Et le motif qui l'avait guidé ne pouvait-il pas être, au contraire, cette théorie elle-même de la responsabilité de nos actes envers un pouvoir invisible? Quand Myriam avait parlé de l'héroïsme et de la vertu, en l'indiquant comme l'atmosphère ordinaire de l'homme, que ces principes paraissaient chimériques à Fabiola. Cependant, ici même, sans préméditation, sans arrière-pensée, froidement, sans désir de la gloire, et en cherchant au contraire à cacher son héroïsme, l'esclave venait d'accomplir le sacrifice de sa vie. Qui pouvait amener ce résultat inexplicable, sinon l'habitude d'une vertu héroïque, prête à faire à toute heure ce qui ennoblit pour toujours le nom du soldat? Il n'y avait pas là seulement des rêves, des théories, mais la pratique réelle de tout ce qu'elle enseignait. Était-ce là une philosophie? Oh non, ce devait être une religion, la religion d'Agnès et de Sébastien, dont Myriam était l'égale aux yeux de Fabiola, qui désirait ardemment s'entretenir encore avec elle. Le médecin arriva de grand matin, comme il l'avait promis. Il trouva sa malade moins faible et désira rester un moment seul avec elle. Alors il étendit un linge blanc sur la table, alluma des flambeaux, tira de sa poitrine une écharpe brodée et découvrit une boîte d'or dont Syra connaissait le contenu sacré. S'approchant de son lit, il lui dit « Ma chère enfant, comme je vous l'ai promis, je vous apporte celui qui n'est pas seulement le remède souverain des maux de l'âme et du corps, mais le suprême médecin lui-même qui, d'un mot, guérit toutes les souffrances, dont l'attouchement ouvre les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, dont la volonté guérit les lépreux et dont le bord du vêtement suffisait seul à guérir toutes les infirmités. Êtes-vous prête à le recevoir ?»« De tout mon cœur, répondit-elle en joignant les mains avec ardeur. « Je désire posséder celui que seul j'aime, en qui je crois et auquel mon cœur appartient. Votre âme ne ressent-elle ni colère ni indignation contre celui qui vous a frappé? La vanité ou l'orgueil ne s'élève-t-il pas dans votre esprit à la pensée de l'acte que vous avez accompli? Vous sentez-vous coupable de quelque autre faute qui exige l'humble confession et l'absolution avant de recevoir le don sacré dans votre cœur? Je sais que je suis pleine d'imperfections et de péchés, vénérable Père, mais je ne me souviens d'avoir commis aucune faute volontaire. Je n'ai pas eu besoin de pardonner à celui auquel vous faites allusion. Je l'aime trop pour cela et je donnerai volontiers ma vie pour le sauver. Et de quoi pourrait s'enorgueillir une pauvre servante qui a seulement obéi à l'ordre de son Seigneur ? Alors, mon enfant, appelez de toute votre âme notre Seigneur à entrer dans votre maison, qu'il vous guérisse et vous comble de ses grâces. » Puis, s'approchant de la table, Dionysius prit une parcelle de la Sainte Eucharistie sous la forme de pain sans levain et la déposa sur les lèvres de Myriam. Elle les referma et resta pendant quelque temps absorbée dans la contemplation. C'est ainsi que le saint prêtre Dionysius remplissait à la fois ses devoirs de prêtre et son office de médecin, comme le rappelle son épitaphe.